7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et avec Virginie Fulpin pour le journal de 8h.
Les Jeux Olympiques seront-ils un tremplin pour l'emploi? Comme le dit le comité d'organisation, 10 000 postes étaient offerts hier. La sécurité autour des Jeux laisse à désirer. L'État veut reprendre la main et remplacer les vigiles par des policiers et gendarmes. Et puis la Cour de cassation rend sa décision aujourd'hui dans l'affaire du Penelope Gay.
Après le journal, le choix cinéma de Samuel Blumenfeld qui nous emmène à Amsterdam avec le nouveau documentaire de Steve McQueen, suivi de l'éditorial de Guillaume Tabar qui nous parlera de Mélenchon qui a trouvé une terre d'asile politique à Sciences Po, puis de l'invité de la matinale, Philippe Gandilon qui publie Drugster, drogue illicite et trafic en France. Les Jeux Olympiques offrent 10 000 emplois.
Oui, 10 000 postes à pourvoir sur les sites des compétitions. Pour encadrer l'événement, un forum de l'emploi s'est tenu hier à Paris. Le comité d'organisation veut faire de ces Jeux un tremplin vers l'emploi. Mais dans les faits, c'est un petit peu plus compliqué que ça, Lucie Dupressoir.
Plus l'échéance des Jeux approche, plus les secteurs sont en recherche.
La communication.
L'hôtellerie et la restauration.
L'informatique.
Simon, 55 ans, cherche un poste dans l'événementiel.
J'ai rencontré une entreprise qui serait intéressée par mon profil, mais je ne peux pas vous dire pour l'instant combien de temps, je ne sais pas.
Car après plusieurs années de chômage, il espère surtout un emploi stable.
Les Jeux, c'est bien parce que ça fait que beaucoup de gens vont trouver un travail, mais on ne sait pas pendant combien de temps. Est-ce que ça va être pour quelques mois? Or que moi, c'est un emploi que j'ai envie d'avoir pour plusieurs années.
Devant son stand de sécurité privée, Marc Pierre, le DRH de la société Chalencin, se veut rassurant.
99% de nos postes sont en CDI.
Mais son voisin, Mexen Saya, directeur d'exploitation chez Dimension Sécurité Privée, est moins optimiste.
La priorité au jour d'aujourd'hui, c'est surtout les Jeux Olympiques. Ça va être des contrats de 6 mois ou 4 mois.
Même conclusion au comité d'organisation. Les contrats longs ne sont pas majoritaires. Marie Barsac, directeur Impact et Héritage chez Paris 2024.
Sur les trois éditions des forums emploi, à chaque fois il y a 25% de demandeurs d'emploi qui sont repartis avec une promesse d'embauche et dans ces 25%, il y avait une répartition 50-50 entre des CDD et des CDI.
Malgré cela, 6000 personnes s'étaient inscrites hier au forum.
Alors les JO, c'est de l'emploi et normalement c'est aussi de la sécurité, surtout pour la cérémonie d'ouverture. Le problème c'est que l'État s'inquiète des défaillances du comité d'organisation. Les pouvoirs publics veulent même reprendre la main. Rien que pour la cérémonie d'ouverture, il manque 1400 agents de sécurité, 8000 pour l'ensemble de la durée des Jeux, Fabien Albert.
Chiffre avancé par Sofiane Aboubekeur, il est le président de l'Association des métiers de la sécurité.
Ça fait 2 ans qu'on alerte les pouvoirs publics sur ce risque en leur demandant de pouvoir adapter les conditions d'entrée dans nos métiers de façon à nous permettre de toucher des profils d'étudiants totalement adaptés pour des missions ponctuelles en sécurité événementielle.
Policiers et gendarmes pourraient être appelés à la rescousse par l'État, forces de l'ordre déjà mobilisées à 100%. Axel Ronde est le porte-parole du syndicat CFTC Police.
On n'est pas des surhumains, à un moment donné ça ne va pas être possible. De toute façon, nous ne sommes pas des agents de sécurité. Nos missions n'ont absolument rien à voir avec ce que font ces vigiles.
La solution pourrait se trouver du côté de l'armée. À 3 mois des Jeux, on s'affole aussi du côté de la police municipale de Paris. 1000 postes sont encore à pourvoir, selon son directeur, Michel Felquet. Alors, la formation préalable obligatoire de 6 mois va être considérablement revue à la baisse.
On va réduire cette formation pour qu'ils la reprennent après les Jeux Olympiques et qu'ils soient déjà bien employés pour les Jeux Olympiques parce qu'on a besoin de monde.
Face à ces nombreux manques, le directeur de cabinet du préfet de Paris temporise.
Les Jeux commencent le 26 juillet, il reste 3 mois devant nous et on est déterminés.
Tel un sportif attendu, Christophe Noël Dupéra donne donc rendez-vous le jour J.
L'aviation civile reprend les discussions avec les syndicats de contrôleurs aériens aujourd'hui à la veille d'une grève massive. Bruno Le Maire présente ce matin au Conseil des ministres son plan pour la simplification administrative, 50 mesures en tout. C'est une affaire qui nous occupe depuis 2017. Le Penelope Gate, la Cour de cassation rend sa décision aujourd'hui après le pourvoi de François Fillon et de son épouse. L'ancien Premier ministre avait été condamné en appel à 4 ans de prison et 10 ans d'inéligibilité. Que va faire la Cour de cassation? Le constitutionnaliste Bertrand Mathieu nous explique les enjeux.
Premier scénario, la Cour de cassation rejette le pourvoi, la condamnation est définitive, il peut toujours y avoir des aménagements, mais il y a un enferme de prison, ce qui pourrait se traduire par une assignation à domicile avec le port d'un bracelet. Dans cette hypothèse, le seul recours qui reste à François Fillon, c'est un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, donc on peut imaginer que dans un nombre assez considérable de mois, la France puisse éventuellement être condamnée, mais ça n'aura pas beaucoup d'effet. La deuxième solution, c'est la Cour de cassation casse la décision de la Cour d'appel Et dans ce cas-là, on repart à zéro ou presque.
Bertrand Mathieu répondait à Lauriane Toulmont. Le couvre-feu pour les mineurs s'étend de ville en ville, Pointe-à-Pitre d'abord, Béziers maintenant dans trois quartiers et Nice devrait suivre. Et puis un record, 1700 cas de dengue importés en France métropolitaine depuis le début de l'année. Il faudra être vigilant, notamment pendant les Jeux Olympiques avec un grand brassage de la population.
Il y a donc des sujets qui vous préoccupent depuis 1917.
Oui, mais c'est ça. J'y pense depuis très très longtemps.
Virginie, merci. À demain tout de suite. Le choix cinéma de Samuel Blumenfeld. Bonjour Samuel.
Bonjour David.
Votre choix cinéma cette semaine s'est porté sur un documentaire de Steve McQueen auquel on doit 12 Years Slave. C'était en 2013, un film sur l'esclavage qui avait fait sensation. Aujourd'hui, ça s'appelle Occupied City, un film de 4 heures, un documentaire qui s'intéresse aux fantômes de la ville d'Amsterdam sous contrôle nazi durant la Deuxième Guerre mondiale. Un documentaire qui a cette originalité, pas d'image d'archives. Il a été tourné dans la ville d'Anne Frank, pendant le confinement, pendant l'épidémie de la Covid.
Absolument. Nous parlons d'un documentaire extrêmement singulier, de la part d'ailleurs d'un réalisateur qui n'est pas documentariste. Hein. C'est l'homme qui a réalisé 12 Years a Slave, Oscar du meilleur film, l'homme qui a également réalisé Hunger sur Bobby Sands, un très grand metteur en scène, anglais, et d'ailleurs qui a en fait le fil rouge de son œuvre, c'est qu'il s'intéresse aux opprimés, aux persécutés. Ce qui est très frappant dans sa démarche très ambitieuse d'Amsterdam, c'est que d'abord c'est un outsider, Steve McQueen est anglais et il s'intéresse à une ville occupée. Or Steve McQueen a cette spécificité, c'est que c'est un Européen certes, mais il est issu d'une ville, Londres, qui elle n'a pas été occupée. Il fait partie de ces seuls Européens, parce qu'il n'y est pas issu de l'Europe continentale, qui ne connaît pas l'expérience de l'occupation. Donc soudain, lorsqu'il s'intéresse à la ville où il réside, Amsterdam, eh bien, il y pose un regard très différent. Et bien évidemment, nous obtenons un documentaire hautement singulier. Pourquoi hautement singulier ? Parce que tout simplement, Steve McQueen, non seulement filme cette ville durant le confinement, donc il y a un moment en fait, où il y a des fantômes dans la rue. Mais il y a des fantômes, c'est-à-dire qu'il n'y a presque personne dans la rue. Mais soudain, parce que la ville s'est vidée, accidentellement vidé, il s'intéresse en fait à toutes ces plaques que l'on voit partout à Amsterdam. Des plaques des gens qui ont été arrêtés et déportés, et puis aussi de Hollandais qui ont résisté, qui ont été exécutés. Des dizaines de milliers de personnes qui sont uniquement des plaques, ou alors des endroits, des maisons, où ont-ils résidé, comment ont-ils habité, comment ont-ils dû sortir, être expulsés de leur maison. Et en fait, ce sont ces fantômes-là qu'interroge Steve McQueen.
Amsterdam, c'est la ville d'Anne Frank. Et évidemment, on ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle, même s'il est hasardeux, même s'il est déplacé, entre le confinement de la Covid et le confinement qu'a vécu Anne Frank à Amsterdam.
Très, très juste, David, absolument. Et dans le cas d'Anne Frank, puisque nous sommes dans la ville d'Anne Frank, donc c'est pas quand nous parlons d'Occupied City, la ville occupée, elle a en fait désormais une mythologie pour nous, à travers, entre autres, le personnage d'Anne Frank. Et ce qui est très impressionnant dans l'histoire que relate Steve McQueen, c'est qu'en fait, nous apprenons que l'occupation était très difficile pour les Néerlandais. C'est-à-dire qu'elle était très difficile, il y a un hiver terrible où ils ont souffert de faim. Et lorsque sont revenus les rares juifs néerlandais après la guerre, sont revenus des camps, eh bien les Hollandais les ont regardés comme des gens qui avaient eu de la chance parce qu'ils n'avaient pas souffert, justement, de ce fameux hiver. Et en fait, c'est toute une histoire étouffée, celle des Juifs, des résistants néerlandais, qui remonte ici, parce que c'est une histoire qui a été occultée en Hollande jusque dans les années 1960.
Il faut aller le voir avec quelqu'un qui a le temps, parce que ça dure 4 heures.
Oui, et puis surtout aller le voir avec quelqu'un qui est motivé. Mais c'est de la motivation et la moindre des choses. Avec qui va-t-on le voir ? C'est très simple. Avec le lecteur de Patrick Modiano, le lecteur passionné de fantômes. Il y a des fantômes en France, il y a aussi des fantômes à Amsterdam.
Occupied City de Steve McQueen, le choix cinéma de Samuel Blumenfeld. Merci, ça sort aujourd'hui dans les salles. À suivre, Guillaume Tabar, le responsable politique qui a trouvé l'asile politique à Sciences Po Paris.